Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Et on retrouve donc Cédric Balade, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Nous débuterons ce journal par cette exclusivité Radio 1. L'affaire de la citerne d'eau d'Elima est relancée, un dossier dans lequel Gaston Flosse et Édouard Fritsch sont déjà mis en examen. Vous entendrez les précisions d'Antoine Samoyau. Près de 4 milliards de francs pour aider les communes. Le contrat de ville 2015-2020 a été signé hier. Vous entendrez le reportage de Raymana Terey. Nous reviendrons également dans cette édition sur les deux homicides découverts à Rayatea en moins de 24 heures. Et nous parlerons aussi des Marquises qui se préparent à recevoir leur nouvel administrateur. Avant de finir en musique avec le deuxième volet de notre série Tahitian Voice. Aujourd'hui, les derniers réglages avec la team de Sabrina Loughlin.
Et on commence ce journal donc avec cette exclusivité Radio 1. L'affaire de la citerne d'eau d'Elima est relancée.
Hier matin, la chambre de l'instruction a relancé les investigations portant sur l'affaire de la citerne d'eau d'Elima dans lesquelles Gaston Flosse et Édouard Fritsch sont déjà mis en examen. La chambre a décidé de renvoyer le dossier devant le juge d'instruction Laurent Meyer pour mener de nouvelles investigations sur deux anciennes propriétaires des terrains de Elima, parmi lesquelles se trouve l'ex-conseillère territoriale Hilda Chalmon. Les précisions d'Antoine Samoyau.
L'affaire de la citerne d'eau d'Elima a éclaté en février 2014 avec les mises en examen de l'actuel président Édouard Fritsch, puis du président de l'époque Gaston Flosse pour détournement de biens publics. Dans ce dossier, les deux anciens maires de Pierre-Hay sont suspectés d'avoir fait payer l'alimentation en eau de la résidence de Gaston Flosse à Elima par la commune de Pierre-Hay. La Chambre territoriale des comptes avait déjà dénoncé cette situation en 2011 en affirmant qu'il était paradoxal de constater que la commune de Pierre-Hay assurait la distribution en eau du lotissement privé d'Elima alors même que ce lotissement était situé à Haroué et accessible par la route uniquement depuis la commune de Haroué. Après les investigations menées par le juge d'instruction Philippe Stelmach, l'affaire a été transmise en fin d'année dernière au parquet pour son règlement. Mais plutôt que de demander le renvoi du dossier en correctionnel, le parquet a rendu un réquisitoire supplétif. Il a demandé la poursuite des investigations et la mise en examen de deux autres personnes déjà interrogées par les enquêteurs. Le juge Stelmach a refusé et l'affaire s'est retrouvée la semaine dernière devant la chambre de l'instruction de Papeete. Les juges ont rendu leur décision hier matin. Ils ont demandé la réouverture du dossier et la poursuite des investigations sur deux anciennes propriétaires des terrains de lotissement privé d'Elima, l'ancienne conseillère territoriale Hilda Chalmon et sa sœur. Dans son rapport de 2011 sur la gestion de la commune de Pierre-Hay, la Chambre territoriale des comptes évoquait déjà le nom de l'ancienne conseillère territoriale, élue entre 91 et 96, puis entre 98 et 2001. Le rapport précisait à propos des 23 maisons construites dans le secteur d'Elima à partir des années 2000, ces maisons sont alimentées gratuitement depuis leur construction à partir du réservoir qui alimente la propriété de Gaston Flosse, à la suite d'un accord entre lui-même et Hilda Chalmon sur la propriété de laquelle passe la conduite d'alimentation du réservoir. Des installations qui semblaient clandestines pour les juges, puisqu'elles n'étaient même pas mentionnées dans les documents établis quelques années après leur mise en service.
Du social maintenant, avec près de 4 milliards de francs alloués pour aider les quartiers défavorisés.
Le contrat de ville 2015-2020 a été signé hier après-midi à la présidence par le président du pays, Édouard Fritsch, le haut-commissaire Lionel Beffre, le vice-président Nuno Loré, la représentante du syndicat mixte Tenouiari Ifawa et les 9 représentants des communes intégrées au contrat. Ce projet qui s'étalera sur 6 ans apportera un soutien financier de près de 4 milliards de francs aux 76 quartiers dits prioritaires pour leur offrir de meilleures conditions de vie et surtout de l'emploi. Chaque année, ce sont plus de 650 millions de francs de financement qui seront alloués aux différentes agglomérations signataires que sont Maïna, Haroué, Pierre-Hay, Papeete, Faa, Punaouia, Paea, Papara et Mooréa. L'État et le pays participeront directement au contrat de ville à hauteur de 340 millions de francs par an et ces financements seront complétés par l'accompagnement de la délégation au développement des communes pour la partie investissement des projets présentés et par la participation budgétaire des communes et des associations sur leur quote-part. Le maire de Maïna, Patrice Jamet, nous précise que les actions de ce contrat sont déjà effectives dans sa commune et donne l'exemple du quartier de Hitimahana.
Il faut que les gens qui vivent dans les quartiers sentent qu'il y a de l'aide qui arrive et on veut les responsabiliser. C'est déjà démarré à Maïna, c'est déjà démarré. Mais on va dans leur quartier, on leur donne un coup de main pour au niveau de la sécurité, de l'hygiène surtout des quartiers, de les aider à nettoyer, de les responsabiliser.
Vous avez un exemple à me donner?
Ah oui, les quartiers de Hitimahana, par exemple, aujourd'hui, je sens que les gens qui vivent dans ce quartier-là sont beaucoup plus responsables aujourd'hui, parce qu'ils nettoient leur quartier maintenant, et on leur installe pour les déchets, tout ça, et on les apprend à trier.
représentante du syndicat mixte Tenuhiri Ifawa nous explique comment s'effectue la gestion des crédits attribués.
Ces crédits sont gérés par le syndicat mixte avec un mode de gouvernance qui est inscrit dans le contrat de ville. Donc avec une première instance de pilotage qui est gérée par les maires, le commissaire et le président du pays et des instances de validation telles que le comité de programmation qui va acter le financement de chacun des projets pour les communes et pour les associations. Donc tout l'argent, tout le financement est géré par le syndicat mixte, mais engagé et acté par les élus.
Des interviews réalisées par Raymana Terey.
Fait divers maintenant avec ces deux homicides découverts en moins de 24 heures à Rayatea.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est le scénario auquel les gendarmes de la brigade de Rayatea ont été confrontés vendredi dernier. Dans la nuit de jeudi à vendredi, tout d'abord, un homme d'une cinquantaine d'années a passé à tabac sa concubine âgée seulement de 20 ans. La malheureuse a été rouée de coups de poing et de gourdin. Elle a succombé à ses blessures dans la nuit. Son agresseur, Tamatoa Butcher, a été arrêté vendredi. Il a été mis en examen samedi pour coup mortel et placé en détention provisoire à Nootania. Une information judiciaire visant les témoins du drame a également été ouverte pour non-assistance à personne en danger. Et dans la même journée de vendredi, les gendarmes de Rayatea ont également découvert le cadavre d'un vieil homme visiblement décédé depuis plusieurs jours. Un homme qui a rapidement été identifié comme étant un habitant de l'île, âgé d'une soixantaine d'années, retraité et bénéficiaire d'une pension d'invalidité Cotorep. Mais l'attention des gendarmes a surtout été retenue par des plaies au niveau de la tête de la victime. Après autopsie, les enquêteurs ont découvert que le vieil homme avait été frappé par un objet contendant. Ils ont d'ailleurs retrouvé un marteau non loin de la victime. Les gendarmes ont alors rapidement porté leurs soupçons sur le voisin de la victime, Sébastien Taeya Etoa, lui-même disparu de la circulation depuis quelques jours. Le voisin en question n'était d'ailleurs pas un inconnu de la justice, ancien détenu. Il avait été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'un commerçant de Rayatea en 1995. Les gendarmes ont donc diffusé son signalement et Sébastien Taeya Etoa a été retrouvé dimanche à Bora Bora. Placé en garde à vue, il a avoué avoir tué son voisin à coups de marteau avant de s'enfuir de Rayatea. Pour autant, le meurtrier n'a pas donné d'explication rationnelle pour expliquer son geste. Il a été mis en examen hier pour meurtre et placé en détention à Nootania. S'agissant d'une récidive, il encourt 60 ans de réclusion criminelle.
Du côté des Marquises, on se prépare à accueillir le nouvel administrateur.
Jeudi, demain donc, Thierry Humbert sera accueilli au commissariat pour un long entretien avec Lionel Beffre avant de rejoindre la Terre des Hommes dans la foulée. Selon Le Progrès, journal de la région du Jura d'où arrive le haut fonctionnaire, Thierry Humbert a commencé sa carrière en tant qu'employé des postes puis inspecteur avant d'être détaché au ministère de l'Intérieur en 2000. C'est en 2009 qu'il a entamé son parcours dans la préfectorale en tant que secrétaire général. Nommé directeur du cabinet du préfet du Jura en 2012, Thierry Humbert va vivre aux Marquises sa première expérience en Outre-mer. Thierry Humbert qui succède à Guylaine Charrier, elle-même promue directrice du développement local de la préfecture du Cantal.
Et on termine en musique avec Tyson Voice et les derniers réglages pour la team de Sabrina Loughlin.
La finale de Tyson Voice aura lieu ce vendredi soir dans les jardins du Royal Tahitien à Pearl Air. Pour que la soirée soit une réussite, l'équipe de chaque coach que sont Sabrina Loughlin, Teiva Elsé, Aldo Raveino de Manaune et Aldo Martinez de Côte 98 a répété tout le week-end. Radio 1, organisateur de cet événement, a suivi pour vous les répétitions. Deuxième volet de cette série de 4 modules de présentation avec deux des protégés de Sabrina Loughlin, Touloumei et Rautini, un reportage de Vaïté Ourali Pambra.
Je vais rentrer, je vais travailler, pousser la faim, casser les décibels.
La voix en haut ou si tu fais l'octave du bas, tu vois comme elle est en haut. Le duo, c'était bien, c'était facile.
Un peu impressionnant parce que la candidate avec qui je participe, elle est à l'aise sur la chanson, mais du coup je vais essayer d'être à la hauteur, hein, pour valoriser la chanson déjà.
Quand t'es pas à l'aise sur ce duo-là?
Je l'ai pas encore en moi, la chanson. Je la connais pas encore bien. Pas mieux que Johanna. Mais avec elle, ça va être facile. Il faut avoir une complicité. Avec Johanna, on a travaillé déjà deux fois en CV pour travailler la chanson. Du coup, ça va.
Que tu sois toi et le piano, faut que tu profites. Tu vois, c'est bien avec le groupe, mais avec juste un instrument, c'est différent. Donc, même si là, c'est un peu... c'est une petite balade, mais il faut que tu... on voit, quoi.
Je sais bien, j'ai tout dit. Mais je te dis quand même. Je t'aime.
Alors, Mon Solo, c'est une chanson que je ne connaissais pas. Je l'ai appris sur Internet. Donc, une chanson qui me touche énormément et qui m'émeut. Donc, c'est pas non plus le type de chanson que j'aime chanter.
Est-ce que vendredi soir, tu comptes faire pleurer le public?
C'est pas le but de faire pleurer les gens, mais de faire une prise de conscience. Peut-être pour, voilà, quand on est dans un couple fragile et voilà. À arriver jusqu'au texte de Patrick Bruel. Le monde est plus heureux quand on est amoureux que séparé.
Pour assister à la finale sont en vente au tarif de 2000 francs dans les magasins Carrefour de Haloué et Pounaouia. Radio Infaléouté sur notre billetterie en ligne. Sachez que votre avis de spectateur comptera pour cette soirée. En effet, si les notes attribuées par les membres du jury placent les candidats ex aequo, ce sera à vous, le public, de voter pour départager ces candidats.